Deutsche Welle. Droits et libertés.
Début juillet 1994, le Front patriotique rwandais, le FPR, emmené par Paul Kagame, prend le pouvoir au Rwanda. Le 4 juillet, le bras armé du mouvement, l'APR, avait pris Kigali, la capitale, et le lendemain, la ville de Butare. Ce revirement politique et militaire met fin au massacre perpétré depuis le mois d'avril 1994 dans le pays. 800 000 Tutsis et Hutus modérés ont péri durant ces quelques mois qu'aura duré le génocide rwandais. Le point de départ des massacres, ce sont des tirs de missiles le 6 avril qui font s'écraser l'avion présidentiel de Juvenal Habyarimana. Pourtant, les tensions étaient palpables déjà avant cette date au Rwanda et le gouvernement allemand le savait ou aurait dû le savoir. Mais à l'instar d'autres puissances occidentales, l'Allemagne n'a rien fait et choisit d'ignorer les signes précurseurs du dernier génocide du XXe siècle. Au micro, c'est Sandrine Blanchard. Bonjour à tous.
Le seul fait que l'Allemagne ait été surprise par l'éclatement de la guerre civile et le début du génocide, et ce en dépit de tous les signes qui auraient dû alerter, montre à quel point les déficits en matière de détection des conflits et de flux d'informations étaient grands. Ce qui peut s'expliquer par des facteurs psychologiques, structurels et organisationnels. À peu d'exceptions près, les bureaux de l'aide au développement allemande et les représentations diplomatiques n'ont pas mesuré l'aggravation de la situation au Rwanda, l'armement des populations, les attaques de Tutsis en exil et la propagation systématique du génocide. Inutile de chercher loin la réponse à la question du manque de réaction politique de l'Allemagne. Pour réagir, il faut connaître la situation et ce n'était pas le cas. Cette ignorance est due en partie à certaines informations qui n'ont pas été relayées jusqu'à Berlin, alors même qu'elles étaient connues sur place, et cela est prouvé.
Voilà comment deux chercheurs allemands, Jürgen Wolf et Andreas Mehla, résument la situation. Le ministère fédéral du Partenariat économique et de la coopération les a chargés d'étudier le rôle de l'Allemagne avant et pendant le génocide rwandais, mais leur rapport n'a jamais été publié et a disparu dans les archives du ministère. Au début des années 1990, la République fédérale d'Allemagne est très présente au Rwanda, ancienne colonie allemande rattachée par la suite à la Belgique. En plus d'une ambassade à Kigali, des bureaux du Service allemand pour le développement, le DED, et de la Société pour la coopération technique, la GTZ, mènent des projets sur l'ensemble du territoire rwandais. L'armée allemande, la Bundeswehr, a aussi des contacts dans le pays depuis 1976. Le Rwanda bénéficie du programme d'aide à l'équipement mis en place par le gouvernement allemand à destination d'armées étrangères. Le Land de Rhénanie-Palatinat est lui aussi lié par un partenariat étroit avec le Rwanda à partir du milieu des années 1980. Un bureau est même ouvert à Kigali pour coordonner les projets communs. Les Allemands qui travaillent au Rwanda ont un réseau de relations bien établi.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ici, la voix de l'Allemagne.
Il est désormais clair que le Front patriotique rwandais soutient les rebelles Tutsis qui entrent au Rwanda depuis l'Ouganda. D'après nos dernières informations, les rebelles ne seraient qu'à une centaine de kilomètres de la capitale.
La situation se détériore au Rwanda dès octobre 1990. Le FPR, avec Paul Kagame à sa tête, pénètre en territoire rwandais depuis l'Ouganda. De nombreux signes ne trompent pas. La tension monte malgré l'accord de paix déjà signé à Arusha en Tanzanie entre les parties en conflit. Le pasteur Jörg Zimmermann vit à l'époque au Rwanda. Il se souvient.
La criminalité a augmenté d'une façon encore jamais vue au Rwanda et nous l'avons senti. Il y avait des attaques, des explosions de grenades et puis aussi des assassinats ciblés.
Auch gezielte Mordaktionen, also man fühlte sich alles andere als sicher, das ging so periodisch.
On ne se sentait vraiment pas en sécurité. C'était périodique, ça allait, ça venait. On a souvent entendu des coups de feu et on s'est rendu compte non seulement de la hausse de l'insécurité, mais que tout ce qui se passait n'entraînait jamais de poursuites judiciaires. Et puis la population s'est radicalisée, c'était très sensible.
Die Radikalisierung in der Bevölkerung voranschritt, ganz massiv.
Wolfgang Asche a vécu au Rwanda de 1991 à 1994. Cet Allemand travaillait comme conseiller économique pour la coopération allemande de la GTZ pour le ministère du Plan. Wolfgang Asche explique qu'il y a eu une vague de propagande de plus en plus brutale, de plus en plus ouvertement raciste et sexiste qui a déferlé sur le pays. Il cite l'exemple des propos tenus à l'encontre du Premier ministre de l'époque qui était une femme. Et selon lui, c'est en 1992 et surtout 1993 que la situation devient de plus en plus effrayante. Extrait aussi du rapport confidentiel du ministère fédéral de la coopération économique et du développement. Un rapport de 1999.
Comme nous sommes maintenant en mesure de l'affirmer, des relations étroites, tant sur le plan personnel que technique, existent entre la radio-télévision libre d'Émile Collines et Radio Rwanda, qui a bénéficié des années durant de l'aide au développement versée par l'Allemagne.
Et oui, vous avez bien entendu, la radio-télévision libre d'Émile Collines. C'est cette station qui a propagé un discours de haine, appelant au massacre des Tutsis, attisant le feu au moment les plus sombres du génocide. À partir de l'automne 1993, il devient évident que quelque chose de grave est en train de se tramer.
On s'est vite aperçu que ça pétait, surtout ceux qui habitaient les quartiers populaires, où cela a vite dégénéré.
Le pasteur Timoman parle Kinyarwanda et comprend donc ce que disent les médias locaux, comme la radio d'Émile Collines ou la revue Kangoura, qui elle aussi prêche la haine. Il envoie des lettres en Allemagne pour alerter ses proches et ses soutiens.
Dans l'un de ses derniers numéros, Kangoura a même prédit l'assassinat du président pour mars 1994 et que le FPR serait bien sûr derrière tout ça. Sauf que l'on sait que pour Kangoura et le parti dont elle est l'organe, le CDR, le président est trop laxiste, qu'il fait trop de compromis, notamment pour ce qui est des accords de paix. Ils veulent d'ores et déjà faire de lui une victime de leurs ennemis dont il s'est trop rapproché à leur goût, comme ils le prétendent aussi de Ndadaye au Burundi. Je n'ose songer à ce qui se passerait s'il arrivait vraiment quelque chose à Habyarimana.
Même impression de Reinhard Boltz, qui était conseiller du gouvernement pour la GTZ, en poste depuis 1989 à Kigali.
Ces tensions nous étaient sans cesse rapportées par nos chefs de projet. En 1993, les assassinats ont commencé. Les deux gardiens de notre entrepôt ont été abattus sous nos yeux. On a dit que c'était des membres de l'armée qui les avaient tués ou les jeunes membres des milices interamoues.
Banden der Interahamwe-Leute, die sie umgebracht hatten und so. Und wir hatten das.
Nous avons transmis l'information à l'ambassade, évidemment, mais aussi au ministère, et nous les avons priés d'aborder le sujet lors des prochaines discussions avec le gouvernement rwandais, qu'ils fassent savoir que le ministère ne tolérerait pas ce genre de choses et que les coopérants seraient rappelés en Allemagne le cas échéant, si les violences se poursuivaient et que les gens qui travaillaient avec nous continuaient d'être assassinés. Nous leur avons demandé plusieurs fois de donner un signal fort.
Dass wir ein politisches Signal setzen sollten.
Mais rien ne se passe, les appels émis depuis le Rwanda restent lettres mortes. Et pire encore, quand on consulte les archives de l'ambassade d'Allemagne à Kigali, il ne reste aucune trace des informations de l'époque sur le danger qui approchait. Aucune prise de position officielle de l'Allemagne, qui se range alors sur la ligne européenne, se terre. L'ambassadeur de l'époque, Dieter Hölscher, a terminé sa carrière à Kigali avant de prendre sa retraite. 20 ans après les faits, il continue de tergiverser.
On ne pouvait rien voir. Tout se passait loin de la capitale. On entendait qu'il y avait eu des incidents avec des rebelles qui avaient fait 2 ou 3 morts, mais rien de l'ampleur de ce qui a suivi après. Il s'agissait d'incidents isolés. Jusqu'à ce fameux 6 avril, il ne s'est rien passé de grande ampleur.
À partir du 6 avril 1994, quand l'avion du président Habyarimana est abattu, les massacres se déroulent ouvertement, au vu et au su de tous. Des barricades sont érigées dans les rues, les milices Hutus des Interahamwe entrent dans les maisons des Hutus modérés et des Tutsis.
Yeah,
Ça, c'est la BBC qui décrit alors l'horreur de la situation, l'hôpital débordé, les blessures à la machette. Jusqu'à présent, les autorités allemandes n'ont pas entrepris de surmonter cet épisode du génocide rwandais. Les rapports et les protocoles de l'époque ont mystérieusement disparu des archives du ministère de la Coopération, de la centrale de la GIZ, la structure créée plus tard pour regrouper les services de la GTZ et du DED d'alors. Quant au ministère des Affaires étrangères allemand, il n'ouvrira ses archives qu'en 2024, 30 ans après les faits. Pour finir, un mot de Gilles Courtemanche. Ce Canadien est l'auteur de « Un dimanche à la piscine de Kigali », roman sur le génocide rwandais. Voilà ce qu'il disait en mai 2004 au micro de la Deutsche Welle pour tenter d'expliquer l'inaction des Occidentaux avant, pendant et après le génocide rwanda.
On a toujours de la peine à croire ce qui nous renvoie à notre propre inhumanité. En Belgique, on a peine à croire l'histoire du pédophile qui garde deux jeunes filles dans une cave durant 3 mois. On a peine à croire les meurtres en série parce qu'on ne s'imagine pas que l'humanité est capable de faire des choses semblables. Il faut rappeler que l'Holocauste, on ne l'a pas vu à la télévision. On pouvait dire on ne savait pas. Que le génocide cambodgien, on ne l'a pas vu à la télévision. On pouvait dire qu'on ne savait pas. Mais on a vu des rubans de cadavres dans les rues de Kigali, des femmes qui tressaillaient encore après avoir été violées et coupées à coups de machette. On a vu ça en direct ou presque à la télévision. Et même si on l'a vu à la télévision, on n'arrive pas à y croire. Il y a quelque chose de fascinant là-dedans. Durant combien d'années va-t-il falloir dire qu'il y a eu là un des actes les plus horribles de l'histoire de l'humanité ?
C'est la fin de ce magazine. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à Arndt Peltna et Emmanuel Rouchingabikoui pour les sons. Si vous souhaitez nous écrire, c'est français@dw.com sans la cédille français comme d'habitude. Salut et à la semaine prochaine.